Bonjour, je suis Eva Béillard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode.
La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art.
Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode que j'enregistre seul après plusieurs épisodes d'interviews d'artistes. J'ai eu l'idée de ce nouvel épisode en visitant le village de Saint-Paul-de-Vence il y a quelques temps. Un petit village perché, magnifique, près de Cannes, où ont vécu beaucoup de grands artistes. Et notamment Marc Chagall, qui a vécu là-bas et qui est enterré. Et cela m'a donné l'idée de vous raconter l'histoire d'une de ses œuvres les plus importantes. Le plafond de l'Opéra Garnier à Paris. C'est un ensemble de panneaux montés sur une armature réalisée par Marc Chagall entre 1963 et 1964. Si vous voulez savoir pourquoi ce plafond a fait scandale et pourquoi il risque peut-être d'être enlevé aujourd'hui, je vous invite à passer ces quelques minutes avec moi. Cette histoire commence en 1960, lorsque André Malraux, qui est alors ministre des Affaires culturelles sous le gouvernement de Pompidou, lui-même premier ministre de Charles de Gaulle. Malraux assiste à un spectacle à l'Opéra Garnier, au cœur de Paris, et lève les yeux pour observer la peinture qui orne le plafond. Une idée lui apparaît alors comme une évidence. Son ami et artiste Marc Chagall doit décorer ce plafond. Sans perdre un instant, dès l'entracte, il contacte Chagall pour lui faire cette proposition. Mais, petit détail, à l'époque, le plafond n'était bien sûr pas vierge. Il était déjà orné d'une peinture réalisée par Jules Eugène Le Nepveu et cette décoration datait de l'époque à laquelle l'Opéra Garnier fut construit. Vous verrez que cet élément est important dans la suite de l'histoire. Chagall est alors âgé de 77 ans. Il est très touché par cette proposition, qui serait l'un des plus grands chefs-d'œuvre potentiels de sa carrière. Il dit ne pas en dormir pendant plusieurs nuits lorsqu'il y réfléchissait, mais finit bien évidemment par accepter. S'ensuit alors un travail acharné durant plus d'un an de croquis, dessins et esquisses pour préparer le plafond définitif. Mais lorsque ce projet arrive aux oreilles des médias, un scandale artistique éclate, principalement pour deux raisons. Premièrement, car le style contemporain de Chagall ne correspond pas au style architectural de l'opéra, et je vous résume rapidement le contexte dans lequel l'opéra fut construit dans son entièreté. Faisons donc un saut en 1958, sous le Second Empire, qui a été proclamé par Napoléon III, qui est le neveu de Napoléon Bonaparte. Et celui-ci sort de l'opéra Le Pelletier avec sa femme, l'impératrice Eugénie. Ils sont alors visés par un attentat organisé par des républicains italiens, mais y échappent miraculeusement. Suite à cet attentat manqué, Napoléon III décide qu'il faut construire un plus grand opéra digne de Paris, où il serait plus protégé de possibles attentats. En effet, l'empereur rêve de faire de Paris la ville la plus importante au monde. Car à l'époque, Londres et New York attirent tous les regards. La métamorphose de la ville, qui est encore de style médiéval, est confiée au baron Haussmann, d'où le style haussmannien. Chargé d'ouvrir de grands axes, de construire de beaux bâtiments lumineux et des espaces verts comme le bois de Vincennes ou de Boulogne, bref, dans ce contexte de grand chantier, un opéra majestueux semble nécessaire pour Paris. Un concours est alors lancé pour des projets architecturaux anonymes et c'est Charles Garnier, qui est alors âgé de seulement 35 ans et totalement inconnu du public, qui l'emporte. La construction débute en 1861 et ne finalisera que 15 ans plus tard, en 1875, ayant échappé aux destructions de la Commune de Paris. Napoléon III ne verra donc pas l'opéra terminé car il meurt 2 ans avant son inauguration. C'est donc sous la Troisième République qu'a lieu l'inauguration. Maintenant, revenons-en au scandale de l'œuvre de Chagall qui dure encore jusqu'à aujourd'hui et qui est due à la peinture de Le Nepveu qui fut recouverte par l'œuvre de Chagall. C'est le peintre choisi par Charles Garnier pour réaliser le plafond. Il semblait donc aberrant de le détruire. Pour cela, il a été décidé en compromis car l'œuvre de Le Nepveu est potentiellement encore visible aujourd'hui. Je dis bien potentiellement car Chagall a en réalité peint un faux plafond fait d'une installation de 12 plaques latérales et une centrale qui peuvent donc être enlevées. Cela fait donc 60 ans que les deux œuvres cohabitent sous la même coupole à 10 cm d'écart. Or, plus de 60 ans après l'installation de Marc Chagall, les ayants droit de Jules Eugène Le Nepveu ont fait la demande pour que le plafond originel soit de nouveau visible. Ils considèrent que celui-ci a été recouvert illégalement. L'illégalité supposée repose sur le fait que la peinture de Le Nepveu fut classée en même temps que le reste du Palais Garnier en 1923, et les ayants droit considèrent donc ce recouvrement comme une atteinte au droit moral de l'artiste. Ils proposent même que le plafond de Chagall, étant lui mobile, soit déplacé dans d'autres endroits du monde pour en faire profiter le plus grand nombre. Mais comment le plafond réalisé par Chagall a finalement gagné l'avis favorable de l'opinion publique? En effet, même si l'œuvre de Chagall constitue une rupture avec l'harmonie du palais, elle constitue aussi une continuité. Car Chagall avait pour ambition de créer un spectacle total qui forme un tout, avec l'action sur la scène et le cadre tout autour. L'artiste lit également le livre écrit par Charles Garnier sur l'opéra, pour être le plus en adéquation possible avec les intentions de l'architecte. Mais alors, que peut-on voir sur ces 12 panneaux qui forment le plafond réalisé par Chagall? Si on regarde avec attention, eh bien c'est une véritable fresque qui rend hommage au plus grand compositeur. On y retrouve les œuvres de Moussorgsky, Mozart et Debussy dans la partie bleue, Wagner et Berlioz dans le vert, Ravel et Stravinsky dans le rouge, ou encore Tchaïkovski et Adam dans le jaune. Ainsi, les personnages sont tous issus des opéras et ballets les plus connus de ces compositeurs. On peut y retrouver Roméo et Juliette, La Flûte enchantée, Tristan et Isolde, ou encore Daphnis et Chloé. Le peintre s'est aussi représenté lui-même, accompagné de sa palette, de peinture et d'un oiseau. Cette œuvre est en définitive une consécration de la synesthésie entre peinture et musique présente dans toute l'œuvre de Chagall, qui affirme dans son livre autobiographique qu'il faut faire chanter le dessin par la couleur. Le plafond est aujourd'hui considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre et a participé à faire parler du Palais Garnier et à le rendre encore plus attractif. Car que l'on l'aime ou non, cette œuvre invite à lever les yeux et suscite quelque chose chez le spectateur. Merci de m'avoir écouté, j'espère que l'histoire vous a plu et on se retrouve au prochain épisode.